bebê, é bebê.
Bonjour et bienvenue sur le podcast Enfanter et devenir, un podcast dédié au récit de naissance à soi et au monde. Naître à soi et naître au monde, des temps de passage forts qui peuvent revêtir des réalités bien différentes. Je suis ravie de vous accueillir dans cet espace de parole qui se veut libre et authentique. Je m'appelle Laetitia Boivin. Je suis une femme multipassionnée parmi tant d'autres. Je suis également la maman de 3 merveilleux enfants qui a vécu des enfantements qui m'ont transformée. À travers ce podcast, je souhaite accueillir les femmes qui le désirent à venir conter leur enfantement. Libérer la parole, faire part de nos joies, lever les tabous. Je suis profondément convaincue qu'à travers la naissance se jouent des changements incroyables pour l'humanité. Dans cet épisode numéro 2, j'accueille Mylène, une maman rayonnante de 2 filles, qui a vécu une expérience pour le moins exceptionnelle, puisque son aînée est arrivée à 28 semaines d'aménorrhée. Elle vient nous conter, avec une force et un optimisme merveilleux, leur parcours contre la prématurité et leur joie d'agrandir la famille et d'offrir autour d'elle espoir et confiance. Je vous souhaite une belle écoute. Merci beaucoup. Je suis ravie de t'accueillir ici dans ce tout nouveau podcast. Et j'ai très à cœur d'entendre tes récits qui sont vraiment hors du commun.
Oui, je suis Mylène, maman de 26 ans. J'ai une première fille en juin 2017, où j'ai accouché donc à 28 semaines d'aménorrhée. Okay. Et j'ai une deuxième fille là, en janvier 2020, où j'ai accouché à 38 semaines.
Deux expériences vraiment différentes, j'imagine.
Complètement.
Est-ce que le terme enfanter et devenir, ça fait résonner quelque chose pour toi? Est-ce que tu as vraiment senti une différence à partir du moment où tu es devenue mère?
Ah bah oui, complètement différente, mais j'ai évolué et j'ai découvert des choses que jamais je m'en serais sentie capable. Par exemple, je ne suis pas quelqu'un de base à être très patiente. Et en fait, c'est bizarre que ça puisse paraître, avec mes filles, j'ai énormément de patience.
Ah, on se découvre tout à fait différemment, en effet. Tu veux bien venir nous raconter les incroyables naissances? Parce qu'une naissance à 28 semaines d'aménorrhée, ça fait combien de mois de grossesse, ça, du coup?
6 mois.
6 mois, hein, oui. Ouais. C'était une naissance vraiment grande prématurée.
Exactement, oui. Et qui s'est suivie de 4 mois et demi après d'hospitalisation.
D'accord.
L'urgence, parce qu'on n'a pas réalisé sur le moment. En fait, j'ai eu mes premières douleurs à 5 heures du matin, à peu près. Mais comme je savais que je la portais très basse, je ne me suis pas plus affolée que ça.
En fait, ta grossesse se déroulait tout à fait normalement, tout se passait bien.
Ouais.
Tu avais un suivi...
Exactement, j'avais une grossesse nickel, quoi. Enfin, j'étais en arrêt depuis le départ parce que j'avais une petite tension. Et étant infirmière, ça m'est arrivé de faire un malaise dans la chambre des patients, donc j'ai arrêté direct. Mais sinon, vraiment une super grossesse, quoi. Pas de contraction, pas de douleur, rien. Enfin, c'était top, quoi. Et j'ai eu le contrôle la semaine d'avant. Tout était nickel, j'avais le col bien fermé. Enfin, on n'avait vraiment aucun signe, quoi.
D'accord.
Et donc là, ce samedi matin à 5h, j'ai pris mon spasson, j'ai réussi à me rendormir, donc je ne me suis pas inquiétée. Et à 9h du matin, quand je me suis levée, j'ai été aux toilettes et j'ai vu une toute petite trace de sang, mais vraiment la taille de mon ongle, quoi, vraiment toute petite. Moi, j'ai dit, je vais quand même appeler la clinique pour savoir ce qu'il en est, quoi. Et là, ils me disent de venir les voir, de prévoir quand même quelques affaires au cas où ils m'hospitalisent.
D'accord. À ce moment-là, tu t'attends pas du tout à rester là-bas. Toi, dans ton corps, tu te sens bien?
Ah, mais moi, je me sentais très bien. La petite, je la sentais bien. Enfin, okay. Non, je me sentais vraiment en train d'accoucher. Et au point où j'ai appelé mon conjoint qui était au travail. Je lui ai dit, ils veulent me voir pour faire un contrôle. mais pas la peine de venir, t'inquiète pas. Et là, il me dit, oh, mais je vais quand même essayer de voir si je peux m'arranger avec mes collègues pour venir. Bon, bah d'accord. Et moi, pendant ce temps-là, comme j'étais pas en train d'accoucher, bah, j'ai pris le temps de prendre ma douche, mon shampoing, de prendre mon petit déjeuner. Et du coup, on est parti, il était plus de 11h. Donc, il y avait déjà 2 heures qui s'étaient écoulées entre mon appel et puis mon départ.
Ok.
Et on avait 45 minutes de route à faire. Là, je me rends compte qu'en fait, mon ventre, il durcissait régulièrement. Mais vraiment, aucune douleur. Juste mon ventre qui durcissait. Donc, voilà. Et on est arrivé aux urgences. Et là, donc, il me met un monito. Et alors là, sur le monito, on voyait vraiment les pics de contraction. Mais moi, je sentais rien de rien de rien. Et bah après, ouais, je ne le sentais vraiment pas. Je sentais juste mon ventre devenir dur, mais j'avais aucune douleur. Donc pour moi, ce n'était pas des contractions parce que j'ai toujours entendu dire que c'était douloureux. Donc pour moi, ce n'était pas des contractions. Quoi.
Et du coup, qu'est-ce qu'on te dit? Et l'équipe soignante, qu'est-ce qu'elle te dit? Ton homme, comment il réagit?
Alors, l'équipe soignante, pendant le monito, on était que enfin, je n'avais pas d'équipe soignante avec moi pendant le monito, parce que j'allais bien, donc voilà. Et avec mon conjoint, bah, en fait, on se dit, on n'est pas prêt avec parents, je ne suis pas en train d'accoucher, c'est pas vrai, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas, mais je ne suis pas en train d'accoucher.
D'accord.
Quand même assez zen sur le moment, parce que, ouais, on n'est vraiment pas dans l'objectif, enfin, dans l'optique que je suis en train d'accoucher, quoi.
Et puis, il n'y a personne qui s'affole autour de vous
et
non
puis,
plus, donc...
Bah, c'est ça. C'est ça. Et donc, en fait, au bout d'une demi-heure de monito, il y a le sage-femme qui est revenu. Et là, il me dit, vous voyez ce qui se passe? Ben, je dis, je vois qu'il y a des pics et tout. Il me dit, oui, c'est vos contractions. Donc là, je lui dis, je lui dis, ah, d'accord. Mais... Et donc là, il m'examine quand même pour voir l'état du col, voir ce qu'il en était. Et en fait, il me dit que je suis dilatée. Il ne me dit pas combien, il me dit juste qu'il va appeler le gynécologue de garde. Il fait une échographie en long et en large pour savoir comment la petite allait, en fait. Et la petite, donc Zoé, elle allait très bien, mais en moment qu'en fait, elle ne sentait pas du tout ça. Le seul truc, c'est qu'elle était en siège et donc impliquée d'autres souffrances et ils ont fait une césarienne.
D'accord. La décision de faire une césarienne est tombée assez rapidement, finalement.
Oui, elle est tombée tout de suite quand ils ont vu que j'étais dilatée à 4 et que la petite était en siège et que c'était une clinique et qu'ils n'avaient rien pour l'accueillir correctement, mais qu'ils ne pouvaient pas me transférer parce que c'était trop tard.
Oui, du coup, à ce moment-là, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans vos têtes.
Oui, la première chose, c'est est-ce qu'elle va vivre? Comment ça va se passer? Est-ce qu'elle va vivre? Où est-ce qu'elle va aller puisque vous ne pouvez pas l'accueillir? Enfin, voilà. Mmh. Et donc là, ils nous ont expliqué qu'en fait, ils allaient se mettre en relation avec la réanimation néonatale de Tours.
D'accord.
Et en fait, Tours n'avait plus de place. Donc, ils ont appelé Orléans. Mais ça s'est bien passé parce qu'au final, donc ils m'ont emmené à la... Il m'a emmenée au bloc et déjà, moi, je suis sourde et je suis appareillée. Et du coup, je voulais absolument, absolument accoucher avec mes appareils auditifs pour entendre ce qui se passe. Et en fait, l'anesthésiste ne voulait pas. Mais c'est une infirmière qui était au top avec le sage-femme qui se sont, entre guillemets, un petit peu battus avec l'anesthésiste pour me laisser rentrer au bloc avec mes appareils.
Bien sûr, ouais.
Voilà, donc j'ai eu cette chance-là. Bon, par contre, mon conjoint n'a pas pu venir, vu que c'était une urgence, quoi. À la base, moi, je ne voulais pas de péridurale, de rachis, parce que trop peur d'être paralysée, qu'il y ait des brèches. Enfin, voilà, après, c'est mon côté infirmière qui a fait que voilà, j'avais ces représentations-là. Mais bon, là, pour une césarienne, j'ai pas eu trop le choix. Il dit, s'il vous plaît, me loupez pas, me loupez pas. Et en fait, il m'a loupé.
Oh.
Voilà, donc, et il me disait rien. Donc là, je lui dis, vous m'avez loupé. Et là, il me dit, faut vous détendre. Je dis, c'est pas facile, vu les conditions. Et il m'a répondu, de toute façon, là, on se bat, mais votre fille, elle va pas vivre.
Oh, quelle horreur.
Donc, autant... c'était horrible. Donc, autant vous dire que là, j'ai regardé l'infirmière qui était à côté de moi. Et j'ai pleuré, hein, parce que c'est pas possible, quoi. Il me repique une deuxième fois, ça marche. Et donc, Zoé, elle est née, du coup, à 13h45. Et je l'ai pas vue, en fait. J'ai vraiment eu le sentiment qu'on me l'a enlevée, quoi. J'ai rien senti, je l'ai pas vu, enfin voilà.
Oui, du coup 13h45, ça s'est vraiment été très rapide en fait.
Ouais, parce que midi, j'avais le monito en place. Midi et demi, 1h15, j'avais la gynécologue. Ouais. Et puis 13h45, elle était née. Et 13h50, le SAMU arrivait.
D'accord.
Donc vraiment, c'était assez synchro, quoi. Ils ne m'ont pas fait de voir tout de suite, et le temps que je me stabilise, moi. Ce qui est logique, hein, ce qui se comprend aussi. Donc, après, je n'ai pas du tout notion des horaires, hein, parce que je n'ai pas de montre et tout défile, donc je n'ai aucune notion du temps. Mais quand je sors du bloc, je suis juste en face de la salle où il y a la petite et le SAMU, je ne sais pas trop ce que c'est comme salle. Et donc là, je demande, mais est-ce que je peux la voir au moins? Et là, on me dit, oui, on peut vous la montrer, elle est vivante, ne vous inquiétez pas, elle respire. Donc déjà, là, c'est une grande victoire, quoi. Donc on me l'amène dans une petite couverture de survie, je ne vois pas son visage, je ne vois rien, je vois juste sa tête, ses cheveux. Et je lui fais un bisou, tout ce que je retiens, c'est que sa tête est plus petite que mon poing fermé. Et puis voilà, après moi je remonte dans la chambre, mais c'était horrible, quoi. Je me dis, je ne l'ai pas vue, je ne sais pas à quoi elle ressemble, elle est toute petite, quoi. Et je crois que mon conjoint qui me dit, on m'a proposé de rester avec le SAMU et Zoé. Donc il me dit, j'accepte, je te donne des nouvelles régulièrement. Donc du coup, lui il descend être auprès de Zoé, et puis moi je remonte dans ma chambre. Donc, le temps est hyper long, hein, puisque pas de nouvelles ni de son homme, ni de sa petite, c'est hyper long.
Elle est toute seule comme ça. Hein.
Ouais, c'est interminable. Hein. Mais je ne sache pas. Donc là, entre-temps, les équipes ont changé. Et pareil, qui est au top, parce qu'elle est au petit soin pour moi. Elle a passé, pas toute son après-midi, mais presque toute son après-midi avec moi. À me parler, à me rassurer, à écouter mes angoisses, mes pleurs. Parce que sur le moment, c'était... Je savais pas... En fait, c'est difficile de savoir comment il faut réagir. Est-ce qu'on doit être content parce que notre fille respire? Ou est-ce qu'on doit avoir peur parce qu'elle est là, mais on ne peut pas la voir et qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, quoi. Mmh. Et puis, dans l'après-midi, il y a une auxiliaire périculture qui vient me voir et qui me dit, est-ce que vous voulez allaiter? À la base, moi, l'allaitement, c'était un peu compromis parce que j'ai une grosse difficulté avec l'image corporelle et du coup, je ne me voyais pas donner le sein. Je lui dis, non, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et elle me répond sèchement, c'est soit vous allaitez, soit elle aura le lait d'une autre maman. Je n'ai pas réfléchi et j'ai dit que j'allais allaiter, quoi. Sauf qu'à 6 mois, ils n'ont pas le réflexe de succion. Donc, du coup, c'est du tire-allaitement que je dois faire.
Un gros challenge, sans l'avoir, ouais.
Donc, c'est hyper difficile. Et ensuite, dans tout ça, j'ai mon conjoint qui revient me voir et qui me dit ils n'arrivent pas à intuber Zoé. Et pourtant, il faut l'intuber pour qu'elle ait le surfactant, donc le produit qui protège les poumons. Du coup, elle n'a pas pu avoir la maturation des poumons vu que c'est arrivé en urgence, quoi.
Ouais. Habituellement, ils font des piqûres à la maman.
Exactement. Mais là, comme c'était trop tard, je ne les ai pas eues, quoi. Donc, ils prennent la décision de quand même la transférer en ambulance, en réanimation à Orléans.
D'accord.
Avec un masque à haute concentration pour que là-bas, sur place, ils puissent essayer de l'intuber, quoi.
D'accord.
Donc, il allait transférer à Orléans en fin d'après-midi vers 17h-17h30. Et mon conjoint me revient vers moi et à 20h, je reçois un appel d'une réanimatrice d'Orléans qui me dit on fait une dernière tentative pour intuber votre fille et sinon on lui fera une trachéotomie, donc c'est un petit trou au niveau de la gorge pour qu'elle respire.
D'accord.
Donc là, en fait, il est 20h, elle est née à 13h45, donc en fait, ça fait 7h qu'elle respire sur elle-même, sauf qu'elle est en train de se mettre en souffrance, quoi.
D'accord, oui.
Et donc, elle est en détresse respiratoire. 21h30, je reçois un appel de cette même médecin qui me dit on a quand même finalement réussi à l'intuber. Et donc, à lui administrer le surfactant.
Ok, donc là, ça doit être un soulagement, j'imagine, pour toi.
Ouais, là c'est un grand soulagement parce que je me dis, bon, au moins elle est intubée, elle va pouvoir respirer. Et en fait, je demande à cette médecin pourquoi ils ont peiné. Une, parce que la prématurité fait qu'ils ont une petite gorge, une petite trachée. Et en plus, votre fille a une fente palatine, donc un trou dans le palais. Donc là, tout de suite, je me dis, c'est moi qui lui a passé parce qu'en fait, moi je suis née avec une fente palatine.
D'accord.
Donc, double culpabilité qui s'ajoute. La nuit passe tant bien que mal, mon conjoint reste à mes côtés et le lendemain matin, il part à Orléans la rejoindre parce que moi, on m'a dit que dans la journée, j'allais être transférée.
D'accord, ok.
Donc du coup, on prend la décision que lui aille rejoindre Zoé pour lui parler, pour lui montrer qu'on est là et puis pour rencontrer l'équipe. Donc, il part et moi, en fait, à 13h le dimanche, donc 24h après sa naissance, la sage-femme vient me voir en me disant « Aucune ambulance veut vous transférer. Vous n'êtes pas considérée comme une urgence. »
Oh, le coup dur.
Voilà, le coup de massue, en fait. À ce moment-là, je pleure et elle me dit « Si vous avez des contacts, faites-les marcher. » Donc là, on réfléchit avec mon conjoint, on réfléchit et il a un copain qui travaille, qui est ambulancier. Donc il l'appelle et il lui dit « Écoute, je ne suis pas de garde, mais j'appelle mon patron et j'explique la situation. » Ouais, une petite heure après, il nous dit « On est en route, on va chercher Mylène pour la transférer.
Wow. »
Donc là, gros soulagement, je sonne directement la sage-femme pour lui dire « Moi, je peux vous dire que la douleur de la césarienne, je l'ai oubliée, je me suis levée du lit, je me suis habillée toute seule. » Dans ces moments-là, on a mal, mais on avance, quoi.
Ouais. Là, l'objectif, c'est vraiment de retrouver ta fille, de pouvoir la voir, de pouvoir lui parler. Ouais. Ouais.
Complètement, et puis d'être avec mon conjoint, parce que je me sens tellement seule et vide, en fait, que j'ai besoin d'être entourée, quoi. Et parce qu'en fait, c'est difficile de se dire qu'on est maman alors qu'on n'a pas vécu son accouchement, qu'on n'a pas vu sa fille. Enfin, on a vu que sa petite tête, quoi. C'est très, très dur. J'avais un bébé qui était en vie, mais je ne me sentais pas maman à ce moment-là. Mmh. Et alors que mon conjoint, ça y est, lui, on lui avait proposé de changer la première couche de notre fille. Donc, lui, il était vraiment dedans du départ, quoi.
D'accord.
Il m'a envoyé des photos quand il était arrivé à Orléans. Voilà, la petite, elle était dans sa couveuse, mais lui, il l'avait caressée. C'est des détails, hein, mais je pense que c'est hyper important et que moi, c'est ce qui m'a manqué. Hein.
Oui, ouais, j'imagine.
Le contact. Et puis en plus, on me disait de tirer mon lait toutes les 3 heures en pensant à elle, mais pour stimuler le lait. Mais moi, il n'y avait rien qui venait. Hein. Donc voilà, donc je suis transférée, j'arrive à Orléans vers 20h. Et le temps qu'on m'installe dans une chambre, je vais en réanimation avec mon conjoint, voir ma fille, en fauteuil roulant du coup, parce que c'est quand même dur de marcher.
Ouais.
Et là, en fait, je vois un bébé, mais pas forcément ma fille en fait. C'est... Je suis incapable de dire ce que j'ai ressenti, mais je peux pas dire que j'ai explosé de joie en disant « Waouh, elle est là, ma fille !» Et pour autant, c'était pas une inconnue pour moi, mais j'ai pas été choquée, mais j'arrivais pas à me dire que c'était la mienne, quoi.
D'accord.
Okay. J'arrivais pas à me dire qu'elle était sortie de mon ventre et que malgré tout, c'est moi qui l'avais mise au monde et que j'étais sa mère, quoi. Et ça va, ce sentiment-là, il va durer bien 2 semaines. Mais bon, je m'en occupais, hein, mais En fait, je me suis mise dans mon rôle d'infirmière. Et je lui ai fait ses soins, j'ai changé sa couche, son cordon. Voilà, je sonnais quand les pouces seringues sonnaient. Voilà, je coupais le son et tout. Je me suis vraiment mise dans le rôle de l'infirmière et pas de la maman, quoi.
Tu avais besoin de prendre un petit peu de recul, un petit peu de détachement.
Ouais, je pense que c'était une façon de me protéger.
Ouais.
Inconsciemment, hein, parce que je m'en suis rendu compte sur le tard que j'ai réagi comme ça. Hein. Mm. Et donc ensuite, mon lait ne venant toujours pas, le mercredi, donc 5 jours après l'accouchement, il y a une puéricultrice qui me dit « J'ai l'accord du pédiatre, on va faire un pot à pot, ça va peut-être vous aider à avoir une montée de lait. »
D'accord. À ce moment-là, du coup, ta fille est nourrie comment ?
Avec le lait d'une autre maman.
Oui, c'est ça. Pour les très grands prématurés, c'est vrai que c'est le lait maternel qui prévaut toujours.
Exactement, parce qu'en fait, l'estomac et les intestins ne sont pas assez matures pour digérer un autre lait.
Oui.
Donc au final, moi, il faut que j'essaye de l'alimenter, quoi. Même si elle ne prend pas le sein à cause de la fente palatine, à cause de la prématurité, au moins qu'elle ait un peu de mon lait. Donc, on fait ce fameux pot à pot et là, la magie opère. Un quart d'heure après, je dis à mon conjoint, oh, non mais donne-moi des compresses, là, ça coule. Hein. Ça y est, le lait coulait, mais à plein, c'était impressionnant.
Incroyable.
Ah oui, c'était vraiment incroyable. Comme quoi, il ne faut pas grand-chose des fois. Hein. Là, vraiment, le pot à pot, en un quart d'heure, ça a résolu le problème. Et depuis l'allaiter, jusqu'à ce qu'elle arrive à son terme, donc en septembre. Après, pour l'allaitement, bon, c'était quand même très contraignant. Il fallait sortir toutes les 3 heures, nuit et jour. Et donc, j'étais aussi obligée de couper des pots à pots.
Parce qu'elle est nourrie avec ton lait, mais elle ne peut pas boire directement à la source.
Ah non, en fait, elle a une sonde nasogastrique. Et donc, souvent, en fait, quand elle avait son alimentation qui passait, on essayait de la mettre en pot à pot sur papa ou sur maman.
Ouais.
Pour que ça soit associé à un moment de plaisir, en fait, malgré tout.
De bien, ouais.
Voilà. Mais du coup, moi, comme les pots à pots me faisaient monter le lait à plein, chaque fois, je devais couper mon pot à pot pour tirer mon lait.
D'accord.
Et en fait, c'est très dur à vivre au bout d'un moment.
Ouais, ça devait être frustrant parce que tu avais envie de continuer ce pot à pot, ce moment.
Exactement, parce qu'en fait, les seuls moments qu'on pouvait partager de bien avec elle, c'était les pots à pot, quoi. Mm-hmm. Et je disais à mon conjoint, j'en peux plus, mon lait, j'en peux plus. Et j'ai réussi à parler, et je n'osais pas en parler à l'équipe, en fait, parce que l'équipe, elle est pro-allaitement. Normal, hein, gérer des prémas avec le lait maternel, je comprends. Hein. Mais du coup, moi, je n'osais pas, j'avais honte de ressentir un agacement à tirer mon lait.
Oui, je comprends, mais oui.
Et mon conjoint, il me dit, il faut que tu arrives à en parler à quelqu'un pour te libérer, parce que lui, en fait, dans tout ça... Ça a été un pilier fort, mon conjoint, parce qu'il m'a toujours soutenue, en fait. Je voulais allaiter, vas-y, fais-le, tu veux arrêter, ben, arrête. Enfin, voilà, il a toujours été un pilier fort.
Oui, ouais, c'est important donc, dans ces moments-là.
Ah oui, oui, très, très, très important. Et donc, pour cet allaitement-là, j'arrive à en parler à la psychologue qui me dit qu'elle va en glisser un mot à l'équipe. Et au final, c'est l'équipe qui vient vers moi et qui me dit « On comprend, allez vous renseigner au lactarium, savoir combien de lait vous avez en stock et puis prenez votre décision à la suite. Mm-hmm. » Donc, je vais au lactarium et le lactarium me dit « Vous avez 11 litres de congelé, madame. »
Waouh, 11 litres, en combien de temps ? C'est une grosse quantité. En effet, ça fait...
Après, il faut remettre dans le contexte, hein, elle boit que quelques millilitres à la fois. Hein.
Oui.
Et donc là, je fais mes petits calculs par rapport à ces doses du moment. Et je calcule et je me dis, si je tiens encore une semaine à tirer mon lait, ça la pousse jusqu'à la date de son terme, donc le 17 septembre. Donc au final, je tire encore une semaine. Et mon corps a dû comprendre que j'en avais marre parce qu'en fait, au bout de cette semaine-là, et ben, je n'avais plus de lait, mais vraiment plus rien.
D'accord, tu as tiré de moins en moins ? Ou c'est arrivé ?
Non, pas du tout, j'ai vraiment tiré comme j'ai tiré d'habitude, parce que je m'étais dit, à la fin de cette semaine, je vais diminuer. Donc, j'ai tiré comme je faisais d'habitude. D'accord. Et en fait, arrivé la fin de la semaine, je voyais que mes quantités diminuaient. Et le dernier jour de la semaine, voilà, c'était fini.
Le corps est incroyable.
C'est complètement ça. Donc voilà, pour l'aventure de l'allaitement, au final, elle a eu mon lait jusqu'à la fin du mois de septembre. Donc en fait, les 3 mois de prématurité plus 15 jours.
D'accord. C'était une belle victoire pour toi.
Ouais, c'était chouette, quoi. J'étais contente pour quelqu'un qui ne voulait pas allaiter au départ, j'étais contente de moi. Et voilà, pour l'allaitement. Et donc pour la suite de la naissance, en fait, au bout de 10 jours de réanimation, on nous a dit que Zoé avait fait une hémorragie cérébrale à 2 jours de vie. Mais nous, on ne le savait pas, on ne s'en était pas rendu compte. Et on nous a dit que ça ne se passerait pas comme ça et qu'il faut qu'elle soit transférée à Tours pour qu'elle soit vue par un neuropédiatre, un chirurgien. Donc, Tours n'avait toujours pas de place. Donc, on a encore attendu une semaine. Donc, Zoé a été transférée à Tours. Elle avait 2 semaines et demie de vie.
D'accord.
Et à Tours, là, on nous dit que l'hémorragie est très importante, que son cerveau est comprimé, qu'il faut agir rapidement pour pas que les parties comprimées meurent. Sauf qu'on arrive autour du 14 juillet. Donc, Zoé a déjà presque 1 mois. Donc, ça veut dire que ça fait quasiment 3 semaines que son cerveau est comprimé, que sa tête grossit de jour en jour.
D'accord.
Son tour de tête prend 1 cm par jour, alors qu'il est censé prendre entre 1 et 2 cm par mois. Ils prennent la décision de l'opérer le 14 juillet pour lui poser un grain. Donc, ils lui posent ce grain côté droit. Donc, c'est un grain, en fait, qui est sous le scalp. Et du coup, c'est les veines du scalp qui vont servir à drainer le sang en trop.
D'accord.
Et donc, ça fait une petite poche hein, sur la tête. On voit une petite poche de réserve, en fait. Et c'est le grain qui s'évacue. Et voilà, et Zoé...
Comment vous vous sentez, vous, les parents, à ce moment-là?
Alors, pour l'instant... On avance, on se pose pas trop de questions. Moi, j'avais des doutes sur sa capacité à vivre. Okay. Et au final, je me rends vite compte à ce moment-là, au moment où elle va au bloc, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'elle va vivre et que ça va aller.
D'accord. T'es confiante.
Et mon conjoint, lui, très positif dans la vie de tous les jours, au quotidien. Et donc là, lui me dit, ça va aller, ça va le faire. De toute façon, c'est ce qu'il y a de mieux, on est bien entouré. Donc, en fait, ça se passe bien, dans le sens où on est tous les deux, on est soutenus et on a confiance en elle.
Ouais.
Et c'est vrai que notre entourage le vit plus mal que nous, au final, parce qu'il est beaucoup plus inquiet que nous.
Comment ça se passe au niveau de votre organisation pour le quotidien? J'imagine que tout est chamboulé, tout est tourné autour de la néonate et de votre fille que vous pouvez...
Mon conjoint, au début, s'est mis en arrêt maladie.
D'accord.
Pour 1 mois. Et en fait, à savoir qu'il est militaire, il appelle ses chefs, lui propose dans un premier temps de poser tous ses congés de l'année.
D'accord.
Donc, il pose tous ses congés de l'année et arrivé à la fin de ses congés de l'année... C'est un de ses chefs le rappelle en lui disant que ses collègues ont fait une proposition de faire un don de jours de vacances.
Okay.
Donc en fait, il va bénéficier de ce don de jours de vacances. Et au final, mon conjoint a été avec nous du 17 juin, le jour de la naissance, au 4 décembre.
D'accord, waouh, superbe.
Donc c'est énorme.
Un magnifique élan d'une
heureuse. C'est une chance inouïe, quoi. Et puis donc nous, on avance, hein. On est tous les deux, on est bien. Zoé, en fait, comme on l'a tous les jours avec nous en peau à peau, on mange à la maison des parents et on repart directement en néonat. On rentre dans la chambre de la maison des parents, il est minuit et vers 7h, 8h, on retourne en néonat. Quoi.
Vous arrivez à passer les journées entières avec elle?
Ouais, on passe nos journées avec. Et pour la petite anecdote, l'équipe de néonat nous dit... Enfin, c'est la réanimation, là. On était toujours en réa, on n'était pas en néonat encore. L'équipe de Réa nous dit, on nous dirait que vous êtes des petits papiers, des petites mamies à regarder le Tour de France. Parce qu'en fait, on était tellement fatigués, mais on voulait tout le temps être avec Zoé, qu'on s'endormait devant la couveuse, quoi, comme si on regardait la télé. Et puis donc, Zoé se montre son petit caractère, déjà. Et en fait, lors d'un pot à pot avec son papa, elle se met à tousser. Et là, on rigole avec mon conjoint, on dit, bah, depuis quand tu tousses? Parce qu'avec l'intubation, il n'y a pas de bruit, ni de bruit de pleurs, ni rien. Et là, je lève les yeux sur l'écran auquel elle était reliée. En fait, je vois une courbe plate. Je baisse les yeux sur Zoé et en fait, je vois qu'elle a arraché sa sonde d'intubation.
D'accord.
Donc là, un petit peu la panique. Je me retourne et je vois qu'il y a un réanimateur pédiatre derrière moi. Et je lui dis, Zoé s'est extubée. Deux secondes, il y a toute l'équipe qui arrive sur Zoé. Et nous, on nous demande de sortir parce que c'est avec des soins stériles et tout.
Oui.
Donc, on sort, on attend. Et là, au bout de, je sais pas, peut-être une demi-heure, peut-être une heure, je sais pas. On nous fait rentrer, on nous dit, on a pris la décision de ne pas réintuber Zoé.
D'accord.
Si elle s'est extubée, c'est peut-être qu'elle en a marre. C'est peut-être un signe qu'elle nous fait. On veut lui laisser sa chance et on lui met un masque à haute concentration. Donc à ce moment-là, on ne sait pas trop ce que ça va donner. On voit que Zoé fait beaucoup de désaturation, beaucoup de bradycardie, du coup le pouls qui descend très bas. Mais on nous dit que c'est normal, donc nous on fait confiance, quoi. Et la journée, elle passe comme ça, et puis le lendemain, on revient. Et en fait, je pense qu'on s'attendait à ce qu'elle soit réintubée. Et en fait, non, madame a toujours son masque. Elle a passé une nuit chaotique parce qu'elle oubliait de respirer toute seule.
D'accord.
Mais ça tenait bon. Mais les résultats étaient assez positifs. Donc, l'équipe a voulu continuer à lui faire confiance. Et au final, elle aura été réintubée que pendant les opérations.
D'accord.
Donc, super, quoi.
À quel moment vous vous dites que c'est vraiment une battante? C'est souvent des mots qu'on entend pour les grands prématurés. Et te dire, waouh. Incroyable.
À ce moment-là, en fait, au moment où elle enlève sa sonde d'intubation et qu'on voit qu'elle tient malgré ses oublis de respi, on se dit, elle est forte et elle va y arriver, elle est hyper courageuse, quoi.
Ouais.
En fait, c'est à ce moment-là, je pense que c'est elle qui nous dit, faites-moi confiance, quoi.
Ouais.
Et en fait, à ce moment-là, elle a toute notre confiance et on se bat avec elle, quoi. Et puis, les semaines passent et sa quête, elle diminue. Et sauf que, donc, elle commence à faire moins de désaturation, bradycardie. Donc, elle passe sur un plus petit masque avec un petit peu moins d'oxygène. Donc, on décide de nous transférer en néonat. Donc, service quand même beaucoup moins lourd. Hein.
Oui.
Donc, ça, c'est fin juillet. Donc, un mois et demi après sa naissance. Et autour du 10 août, on nous dit que le grain à droite est saturé, qu'il n'arrive pas à drainer la partie gauche.
D'accord.
Donc, scanner, IRM, et là, on nous dit qu'en fait, il y a un caillot qui bloque les deux ventricules cérébraux. Au milieu, ils communiquent ensemble. Et en fait, on nous explique qu'il y a un caillot qui bouche cette petite partie au milieu. Donc, il faut poser un grain côté gauche.
D'accord.
Donc, la décision est prise assez rapidement. Et c'est autour du 20 août, elle va au bloc pour poser ce deuxième grain. Et en fait, là, l'opération ne se passe pas forcément comme prévu. Elle convulse. Donc, retour en réanimation. Donc, elle avait quand même ce deuxième grain qui a été posé, mais elle avait convulsé. Donc, il fallait qu'elle soit au moins 48 heures... en observation, en réanimation. Et là, en fait, elle n'a jamais reconvulsé. Donc, au bout de 48 heures, on est redescendu en néonat. Et on voyait cette poche à gauche énorme. Mais énorme, bah forcément, il y avait du sang et du liquide céphalo-rachidien accumulé depuis sa naissance, quoi.
Oui.
Donc, depuis 2 mois. Et je dis, mais là, les sutures, elles ne peuvent pas lâcher. Que je demande à l'équipe, et l'équipe me dit, ça peut arriver, mais c'est rare.
D'accord.
Bon, très bien. Et en fait, quelques jours après, je l'avais en pot à pot. et je sens du liquide sur ma main.
D'accord.
Et je regarde sa tête et je vois qu'il y a du liquide céphalo-rachidien. Du coup, j'appelle l'équipe et l'équipe appelle le neurochir. Et le neurochir me dit, on va faire un point de suture là où ça a lâché.
D'accord.
Et je lui dis, risque pas d'y avoir des méningites. Et il me dit, ça peut, mais on peut pas prendre le risque de l'endormir.
Non.
Donc, elle est recousue à vif, mais elle ne pleure pas. Elle est très très forte, elle ne pleure pas. Et 48 heures après, on m'appelle à 6 heures du matin en me disant qu'il faut se dépêcher de venir voir Zoé, de lui faire un bisou, de lui souhaiter bon courage, qu'elle part au bloc. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'elle a, mais depuis le milieu de la nuit, elle ne va pas du tout. Elle fait de la température, elle n'arrive plus à respirer. Ils pensent qu'elle fait une méningite. Ils lui ont fait une ponction lombaire. Et là, il l'envoie au bloc pour retirer tout le matériel des drains des deux côtés et lui poser une dérivation en externe. En fait, c'est un gros tube qui sort de la tête et qu'il faudra la laisser verticaliser. Non, qu'il faudra la laisser allonger sur son lit pendant les 10 jours de ce drain-là en réanimation.
Ouh là, le coup de massue aussi. Quoi. Ah oui.
Là, c'est, on va la voir directement, mais on ne pleure pas. Hein. Devant elle, on est fort, on ne pleure pas. On lui dit que ça va aller, on la rassure. Et elle part, on l'accompagne jusqu'au bloc. Et on la retrouve en réanimation avec ce gros tube. Donc, qui dit qu'elle doit rester allongée, dit qu'on ne peut pas la prendre en peau à peau. Dit qu'on ne peut plus partager les petits moments de bain qu'on avait. Qu'on ne peut pas stimuler la succion alors qu'elle arrive au moment, à 36 semaines, elle arrive. C'est à ce moment-là que normalement, il faut stimuler la succion.
Ouais.
Donc, ça tombe à l'eau. Donc, voilà, c'est très dur. Et on voit que ce tube, il se remplit, mais à vue d'œil, c'est énorme. Et on sait que ce tube-là, il a une durée de vie de 10 jours et qu'au bout de 10 jours, il faut prendre une décision. Est-ce qu'on met un drain définitif ou pas ? Donc, les 10 jours arrivent, les réanimateurs et le neurochir nous voient, ils nous disent on retire le drain en externe avec une anesthésie locale, on lui donne 48 heures et on voit ce qu'il en est.
D'accord.
Le neurochir nous dit bon, je suis quasi sûre que vendredi elle repasse quand même au bloc au vu des quantités qu'elle donne. Donc, à ce moment-là, c'est un peu le coup de massue parce qu'une dérivation définitive, c'est très lourd au quotidien à gérer parce que ça peut lâcher, parce qu'il faut être sûr que ça grandisse en même temps que le corps de l'enfant grandit.
D'accord.
Ça veut dire au moins 2-3 opérations neurochirurgicales dans l'enfance minimum.
Mmh.
Donc c'est très dur. Et en fait, au bout de ces 48 heures, la tête n'a pas bougé, l'échographie est parfaite. Donc, le neurochirurgien nous dit j'ai envie de lui laisser sa chance et on se revoit lundi. Toujours avec des échographies de la tête tous les jours, des mesures de tête 2 fois par jour. Le lundi arrive, le neurochirurgien nous revoit et nous dit je ne la prends encore pas au bloc, tout est parfait pour l'instant. Il dit je ne sais pas comment ça se fait, mais tout est parfait. Et puis, une semaine passe, tout est toujours bon, 2 semaines. Au bout d'un mois, on nous dit on espace les échographies à tous les 15 jours. Et au final, 3 ans plus tard, nous voilà et on n'a toujours pas de dérivation.
D'accord, ok, wow, quelle victoire, c'est incroyable.
C'est incroyable et le personnel médical ne l'explique pas.
Hein. Je suis épatée de ton récit, de toute cette résilience, de toute cette force et puis un positivisme et une confiance incroyable que vous dégagez tous les deux.
Ouais, mais je pense que c'est beaucoup Zoé qui nous a encouragés à aller dans ce sens.
Ouais, ça a été vraiment de nombreuses péripéties. Hein.
C'est ça. Et puis donc, l'histoire de sa tête résolue, on avait toujours le problème de l'alimentation et de la respiration. Et donc, pour la respiration, on n'arrivait pas à la sevrer de son petit masque de respiration. Et le 17 septembre, donc jour de son terme, on était toujours en réanimation suite à sa tête. Et ce jour-là, Zoé n'arrêtait pas d'enlever son masque. Elle l'arrachait tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'infirmière me dit d'un commun accord avec le pédiatre, on arrête de lui mettre, on voit ce que ça donne. Depuis ce jour-là, Zoé n'a plus eu besoin d'oxygène.
D'accord.
Donc encore une fois, fallait lui faire confiance en fait. Et puis pour l'alimentation, et ben en fait, elle a fait un peu la même chose. Elle est rentrée, donc on est rentrée à la maison fin octobre, hein, donc 4 mois et demi après, après la naissance. On est rentrée avec un scope et la sonde nasogastrique qu'on nous avait appris à poser. Bon, moi, je savais poser chez les adultes de par mon métier, mais on nous a coaché pour la poser chez Zoé, moi et mon conjoint, parce que mon conjoint, il a dit « Je veux pouvoir m'occuper de Zoé si un jour tu n'es pas là. »
Oui, bien sûr.
Donc, je la prends. Donc, il a appris à la poser. Et voilà, il l'a fait parfaitement. Donc, on est rentré à la maison avec cette sonde et on n'arrivait pas. Voilà, elle était nourrie, elle ne réclamait pas. Elle, en fait, c'était un petit peu du gavage hein, qu'on faisait parce qu'elle ne réclamait absolument pas. Et puis, arrive la diversification et là, on se rend compte que Zoé a des troubles de l'oralité. Avec des gros réflexes nauséeux, avec... voilà, elle prenait une cuillère, elle en vomissait trois, impressionnant. Et voilà, on était super bien accompagnés et le pédiatre nous dit on va y aller pas à pas, on va la suivre. Et Zoé se met un jour à nous demander à manger un quignon de pain.
D'accord.
On lui donne un quignon de pain et c'est les seuls morceaux qu'elle acceptera jusqu'à ses un an et demi.
D'accord, ok. Et vous comptez en âge corrigé ou...
Alors, quand j'ai dit jusqu'à un an et demi, c'est en âge réel. En âge corrigé, ça lui fait un an et deux mois.
D'accord, ok.
Oui, donc jusqu'à ses un an et demi d'âge réel, c'est le pain et les gâteaux mous, c'est les seuls morceaux qu'elle mangera.
D'accord.
Et on est sur des quantités de 30 grammes les meilleurs jours de purée et de compote. Quoi.
Ok.
Donc, c'est rien du tout. On fait fin septembre 2018, donc un an d'âge réel. On fait un bilan chez le pédiatre parce qu'elle est énormément suivie. Et nous, on avait besoin de lâcher prise avec mon conjoint. Donc, à la suite de ce rendez-vous, sur un coup de tête, on décide de partir en week-end en famille à Paris.
D'accord.
Et en fait, voilà, donc Zoé était nourrie toujours avec la sonde, mais qu'elle supportait quand même de moins en moins, donc elle l'arrachait très souvent. Mais on ne pouvait pas s'en passer étant donné qu'elle ne mangeait pas.
Mm-hmm.
Et en fait, ce soir-là, au restaurant, je la prends sur mes genoux parce qu'elle s'impatientait, comme tous les autres bébés, en fait. Hein.
Oui.
Et là, en fait, elle pique dans mon assiette. J'étais en train de... On était dans un restaurant avec des spécialités toulousaines. Donc, j'étais en train de manger un confit de canard. Et en fait, elle se met à me piquer des morceaux de confit. Et elle les mange avec plaisir, avec envie et sans réflexe nauséeux. Elle s'est mâchée, elle s'étouffe pas, elle déglutit super bien. Donc là, on était très déstabilisés avec mon conjoint. On ne savait pas ce qu'on devait faire. Est-ce qu'on doit lui remettre la sonde pour lui donner le lait? Est-ce qu'on doit lui proposer à manger? Qu'est-ce qu'on doit lui proposer à manger? Enfin, on était complètement perdus. Mais on décide de vraiment lâcher prise et de se donner notre week-end, d'en profiter, de faire au feeling et qu'on appelait le pédiatre en début de semaine. Donc, chose qu'on fait, hein, et on a mangé une glace, on lui a proposé, enfin après, elle a repiqué de temps en temps dans nos assiettes, enfin voilà. Et on s'est dit que de toute façon, elle ne va pas mourir sur un week-end si elle n'a pas ses quantités, quoi. Mmh. Et puis le lundi, on appelle le pédiatre et le pédiatre il nous dit « Eh ben, on lui fait confiance. Vous lui donnez à manger comme vous et elle prend ce qu'elle prend, mais vous pesez ce qu'elle prend et on complète en fonction. » Donc, on va dire de fin septembre à fin novembre, deux à trois fois par semaine, on avait le pédiatre au téléphone qui nous faisait un petit calcul pour savoir combien on devait donner de lait par la sonde la nuit.
D'accord, ok.
En fonction des quantités qu'elle mangeait par la bouche. Mmh. Et puis, arrive un moment où elle ne veut plus du tout de la sonde.
Même et la du nuit. Coup, là, elle a une courbe de poids qui est harmonieuse depuis le départ.
Alors, c'est un petit gabarit, mais elle a une courbe de poids linéaire, en fait, très progressive, voilà, parfaite, quoi. Basse, mais parfaite, en continu.
Ok.
Et fin novembre, elle ne veut plus du tout de la sonde. Hein. On n'arrive plus à lui mettre. Dès qu'on lui met, elle l'enlève. Donc, on lui fait boire son lait enrichi, parce qu'elle était en lait enrichi, au verre. Et là, elle boit parfaitement, parce qu'elle ne veut rien qui rentre dans la bouche. Donc, pas de verre à bec, pas de biberon, cuillère, rien. Donc, elle boit au verre, comme tout le monde, et ça se passe très bien. Mmh. Et au final, fin novembre 2018, plus de sonde, elle mange comme nous, et c'est parfait. Et donc, à Noël, elle s'est mise à vouloir des toasts de foie gras. Donc, elle a été vers mon père, donc son papy. Il ne savait pas trop ce qu'il devait faire. Nous, on a complètement lâché prise avec mon conjoint et on lui donnait vraiment ce qu'elle avait envie de manger. Et en fait, elle a mangé ses toasts au foie gras et à ce moment-là, elle a vraiment mangé exactement les mêmes repas que nous.
Waouh, quelle belle victoire.
C'est magnifique.
Oui, ouais. Vraiment magnifique.
Comme quoi, il faut énormément leur faire confiance, quoi. C'est pas forcément facile, mais en fait, c'est eux qui nous disent quand ils sont prêts, quoi. Et puis aujourd'hui, eh ben, elle va rentrer à la rentrée en maternelle en septembre, sans aucune aide, parce que c'est une petite fille qui va super bien en fait, hein, qui parle, qui marche, qui est super. Au niveau intellectuel, pour l'instant, elle n'a pas de retard, malgré qu'elle ait une zone au niveau du cerveau qui est morte.
D'accord.
Elle compense, je pense. Et au niveau moteur, donc elle a marché à 2 ans d'âge réel, donc juin 2019, l'année dernière.
D'accord.
Et elle garde une petite faiblesse sur sa jambe droite, donc elle a encore de la kiné une fois par semaine. Et on va mettre en place de la psychomotricité parce que du coup, elle n'a pas du tout confiance aux capacités de son corps. Mmh. Et du coup, elle n'ose pas... Elle n'ose pas sauter, elle n'ose pas escalader, elle n'ose pas faire de vélo malgré qu'on l'accompagne.
D'accord, ok.
Donc, après, ça reste du détail vu ce qu'on a vécu. Hein.
Oui, bien sûr. Oui, tout à fait.
Donc, voilà. Wow, donc, pour Zoé, ouais. Voilà. Après, notre chance, ça a été qu'on a été énormément accompagnés par les équipes et qu'on a été tout le temps, tous les deux. Ouais. Ça a été notre force.
Et en effet, c'est vrai que c'est tellement important dans ces moments-là.
C'est ça.
Ouais, je suis toute émue de votre histoire. C'est vraiment incroyable, dis donc. Que de rebondissements.
C'est ça. Et donc, nous, à la base, en fait, on voulait 2 enfants. Et quand Zoé est née, autant dire que ça a tout remis en question. Et on s'est dit, on se laisse le temps de voir comment elle grandit. Et en fait, comme on voit qu'elle grandit bien et qu'on voilà, on prend envie du deuxième parce que moi, au fond, il reste toujours une part comme si j'ai besoin de me prouver que je suis capable d'être une maman comme tout le monde et d'aller au bout. Mmh. D'être capable d'accoucher par voie basse. J'ai ce besoin de me prouver quelque chose.
Et puis au niveau de la culpabilité dont tu parlais tout à l'heure, elle s'est un peu envolée au fur et à mesure des mois qui passaient
Non, elle n'est pas envolée, elle est toujours présente.
D'accord.
Mais elle est toujours présente, mais on apprend à vivre avec en fait. Voilà, oui, je culpabilise d'avoir accouché à 6 mois. Je l'ai très très mal vécu la première année. Et maintenant, oui, j'ai cette culpabilité parce que... Parce que Zoé, je pense qu'elle irait quand même mieux au niveau moteur si elle avait été à terme et tout. Mais je me dis que j'ai fait mon maximum et que malheureusement, j'ai pas eu de signe avant-coureur pour me prévenir que ça allait pas le faire, quoi.
Ouais, vous avez pas eu d'explication par rapport à cette naissance prématurée ?
Non, j'ai eu tout un tas d'examens et tout est revenu négatif, donc on ne sait pas pourquoi. Et la conclusion des gynécologues, ça a été sur la feuille, il marque travail de terme spontané.
D'accord, ok.
Voilà. Et puis, voilà, il y a toujours cette culpabilité, mais je crois que je l'aurai à vie et que j'apprends à vivre avec, en fait.
Ouais. Alors, c'est vrai que ça me parle, tu sais. J'avais assisté à un séminaire de Michel Audon qui disait parfois, quand le travail est spontané, même pour un prématuré, c'est qu'il y a une raison, on ne sait pas toujours laquelle, mais en tout cas, c'est que ça ne sert à rien de vouloir à tout prix que l'enfant reste dans le ventre quand le travail est spontané comme ça.
C'est ça, c'est ce qu'on dit aussi, il devait y avoir une raison, laquelle on ne la sait pas, mais voilà, si elle l'a fait, c'est qu'il y a quelque chose, quoi. Et donc, avec mon conjoint, comme on voit que malgré tout, malgré son suivi, parce que bon, pendant un temps, on avait quand même de l'orthophoniste et de la kiné une fois par semaine chacun, puis de la psychomotricité tous les 15 jours. Donc, c'est vrai que pendant un temps, il y avait un gros suivi, mais malgré tout, on voit qu'elle évolue bien. Donc, on décide de faire un deuxième. Et on se dit, comme Zoé, on a quand même mis un petit moment à la voir et qu'on était à deux doigts de rentrer en PMA, on va prendre les devants et on va s'y prendre pas trop tard parce qu'on veut pas trop qu'elle ait d'écart.
D'accord.
Sauf qu'en fait, je suis tombée enceinte au deuxième cycle.
Ah oui. Donc là, Zoé, à quel âge?
Ah, au moment où je tombe enceinte, elle va avoir 2 ans.
D'accord. Okay.
Parce que je tombe enceinte en mai 2019 et Zoé aura 2 ans en juin 2019.
D'accord.
Donc, je tombe enceinte, c'est très bien, on est super contents et tout. Par contre, juillet, à la fin du premier trimestre, je perds énormément de sang et là, on parle d'un décollement du placenta. Donc, faut y aller doucement, faut expliquer à Zoé que je peux plus la porter et tout. Donc, c'est assez compliqué, mais ça se passe. Ça se passe bien, on part, on a l'aval pour partir en vacances, donc on part en vacances à la montagne. Se ressourcer un petit peu en famille. Et le premier trimestre se passe, on fait des examens un petit peu poussés par rapport à mes antécédents. Tout se passe bien, j'ai pas de contraction.
T'as un suivi du coup qui est plus poussé peut-être ?
Ouais, j'ai un suivi beaucoup plus poussé avec des examens du col tous les 15 jours.
D'accord.
Surtout ça en fait, des examens du col tous les 15 jours jusqu'à 28 semaines en fait.
D'accord. Et toi, tu te sens stressée plus ou ça va? Tu sens que c'est différent?
Non, je suis zen.
Ok.
Je me dis que ça va aller et qu'on verra bien et que de toute façon, si ça doit arriver, on sait ce que c'est quoi.
D'accord.
Donc on est très zen. Et en fait, à 25 semaines, contraction, le même scénario que Zoé. Sauf que là, j'attends pas. Mon conjoint, il m'emmène directement aux urgences. Donc, entre-temps, on avait déménagé pour le suivi Zoé. Donc là, en fait, on est sur tour et on est sur place, quoi. Donc, en 20 minutes, j'étais à l'hôpital, quoi. Donc, en fait, là, au début des contractions, mon col est encore pas dilaté et tout. Mais par contre, je contracte. Donc là, je suis hospitalisée, on me met sous perfusion, on me fait les piqûres pour la maturation des poumons du bébé.
C'est des piqûres
cortisone.
De cortisone, ok.
Ouais, de cortisone. Et donc voilà, et là, à ce moment-là, nous, avec mon conjoint, on reste zen et on se dit, c'est pénible, ça nous retombe dessus, mais on n'est pas perdu. On connaît l'équipe, on connaît où on va. Si ça doit arriver, on fera front, quoi.
D'accord.
Et l'équipe autour de nous se mobilise vachement. Voilà, ils nous proposent de retourner visiter les lieux. Donc, la réanimation nous repropose des entretiens avec les pédiatres du SAMU, néonat, si on a d'autres questions. Voilà, et en fait, nous, non, on n'a pas de questions. On sait ce qui nous attend. Voilà, on espère que ça n'arrive pas. Si ça doit arriver... aucun problème, on assume, on va au bout, quoi.
D'accord, donc là, tu t'attends à ce que ça se passe de la même manière, quelque part?
Ouais, complètement. Okay. Complètement ça. Et mon conjoint aussi. Hein. Et en fait, à contrario, on a tout notre entourage, nos parents, nos sœurs, qui se font... qui ont énormément peur, quoi.
Ouais.
Ils disent, non, mais c'est pas possible, pas une deuxième fois, quoi. Et nous, on le vit pas comme ça. Et puis, en fait, au bout d'une semaine, et après deux cures de traitement, ils arrivent à stopper mes contractions.
D'accord.
Donc, mon col est mou, mais pas ouvert en externe, simplement. Donc, ils décident de me renvoyer à la maison en étant alité. Donc, alité avec Zoé, c'est assez compliqué quand même.
Oui.
Donc, Zoé va aller chez la nounou, qu'elle a l'habitude, elle la connaît très bien. Et puis, entre-temps, puisqu'on n'a pas de famille dans le coin, donc des fois, quand ma maman a des vacances, et elle prend Zoé en vacances, comme ça me soulage un petit peu aussi. Et on met en place une aide à domicile pour le ménage. Et puis, on arrive à pousser comme ça jusqu'à 28 semaines. Donc là, arrive les 28 semaines, avec mon courant, il dit « Ouais, c'est bon, de toute façon, maintenant, même si elle arrive, ça ne sera pas pire que Zoé, quoi. »
Oui.
Donc, on avance comme ça. Et puis, de 28 semaines, je me dis « Ah, quand même, ça serait bien qu'on arrive à 30 semaines, et ainsi de suite. » Et arrive décembre, mi-décembre, je me dis « On est à 34 semaines. » Doucement, quand même, hein, mais je reprends ma vie parce que j'en ai marre d'être alitée. Et que même si elle arrive à 34 semaines, pour moi, elle va vivre. Et que 34 semaines contre 28, ça ne s'explique pas, quoi.
Oui, ça fait beaucoup de différence.
Voilà, c'est ça. Donc, je reprends ma vie. Et puis, j'en parle au gynéco et à la sage-femme. Puisque j'ai un suivi sage-femme à la maison. La sage-femme me dit, ouais, c'est quand même bien d'attendre 36 semaines. Mais bon, je comprends votre point de vue. Et allez-y, mollo, mais je ne vais pas vous interdire non plus, de toute façon.
Oui, parce que et, eux, là, ce qu'ils te préconisent, c'est de rester alité tout le temps, quoi.
C'est ça. En fait, ils me préconisent de rester alité jusqu'au contrôle des 36 semaines, donc début du 9e mois, quoi.
D'accord, oui.
Mais moi, ça devient pesant, hein. Psychologiquement, non, quoi. J'avais l'impression de ne plus profiter de ma Zoé. Voilà, je voulais encore profiter des derniers moments de Zoé toute seule avant qu'elle soit grande sœur, quoi. Oui. Donc, je reprends un petit peu les devants et je vois le gynéco... Donc, on passe Noël comme ça, en famille. Voilà, je n'ai pas cuisiné, mais on s'est fait plaisir quand même. On a été au restaurant et tout. Et ça s'est très bien passé. J'avais pas plus de contractions que ça. Et en fait, plus j'avançais vers le 9e mois, moins j'avais de contractions le soir.
D'accord.
C'est bizarre, mais voilà. Mmh. Donc, en fait, comme je ressentais moins de contractions, moi, ça me motivait encore plus à reprendre une vie normale, quoi.
Ouais.
Et puis, 31 décembre, le matin, je suis convoquée à l'hôpital pour faire vraiment un check-up du début du 9e mois et voir si je peux accoucher par voie basse et tout, et refaire un point sur mon projet de naissance.
Quel était ton projet de naissance à ce moment-là? Tu l'affines au fur et à mesure que les semaines passent, j'imagine?
Non, en fait, même pas. Si tu veux, j'ai un projet de naissance bien défini dans ma tête avec ce que je veux par rapport à ce que j'ai vécu avec Zoé. Et en fait, c'est très basique ce que je veux. C'est d'une, vivre mon accouchement, ressentir les choses et être seule avec mon conjoint et ma fille, parce que c'est une deuxième fille qu'on attendait, et profiter, qu'on nous laisse le temps de savourer la naissance qu'on n'a pas savourée pour raison médicale, bien sûr, pour Zoé.
Oui.
Et puis, en fait, je décide de tirer à l'été. Toujours de ne pas donner le sein parce que j'ai toujours cette difficulté avec moi. Mais je me dis, j'ai réussi à tirer à l'été Zoé sous la contrainte. Donc, je veux l'essayer de mon propre gré pour Léa.
D'accord.
Le gynécologue me dit, mais s'il n'y a pas de contrainte médicale, c'est complètement entendable votre projet de naissance et malgré qu'on soit dans un CHU, dans la mesure du possible, on l'écoutera. Donc j'avais quand même espoir parce qu'on m'avait dit oui, fais gaffe, les CHU, c'est de la chaîne, nanani, nanana, ils sont très médicales. Donc j'appréhendais, mais que le gynéco me dise ça, ça m'a quand même énormément rassurée.
Oui, bien sûr.
Mais on avait quand même fait le choix d'être suivi au CHU. Pour la proximité de la réanimation, s'il y avait besoin, quoi. Ouais. Du coup, là, il me donne l'aval de lever le pied, de reprendre vraiment une vie normale. Donc, on reprend une vie normale. Et là, arrive le jour des soldes. Et je dis à mon conjoint, je te préviens, le jour des soldes, c'est un mercredi. Toi, tu es au boulot, Je prends ma grande avec moi, une Zoé, parce qu'elle adore faire les magasins aussi. Mmh. Et on va acheter les dernières choses qui manquent que j'ai pas pu choisir. Et deux, parce trois que... petits cadeaux pour Zoé. Enfin, je me fais plaisir, quoi. Je prends la voiture, je fais les magasins.
Ça fait partie des choses dont on parle pas, mais c'est vrai que du coup, quand un prématuré arrive, t'as pas eu le temps de préparer non plus.
Rien. On avait juste fini la tapisserie le vendredi soir avant que j'accouche, quoi. Donc voilà, il y a des choses. Zoé, on n'avait pas eu le temps d'acheter le doudou ensemble. Mm-hmm. Donc c'est un détail. Mais du coup, quand j'ai su que j'étais enceinte, c'est la première chose qu'on a été faire avec mon conjoint, quoi.
Symboliquement, c'est important aussi.
Ouais, on avait besoin d'acheter ce doudou-là. Et donc ce jour-là, voilà, j'achète les dernières couches lavables pour Léa. Enfin, voilà, vraiment, je passe une super journée. On fait un goûter au parc avec Zoé. Enfin, vraiment une journée mémorable. Et puis, le soir, aucune contraction. Et je dis à mon conjoint, tu vois, j'ai bien fait de le faire. Ça a fait du bien à Zoé et à moi. Et j'ai pas de contraction. Donc, au final, la petite dans mon ventre, elle le vit bien aussi, quoi. Oui. Et puis, mon anniversaire arrive le 20 janvier. Et puis, je me dis, si elle arrive le 20 janvier, ça serait énorme quand même. Mmh. Et ce jour-là, mon conjoint a une journée mais pourrie au travail. Il rentre à 20h et avec Zoé, on avait quand même fait mon gâteau d'anniversaire parce que Zoé tenait à souffler mes bougies d'anniversaire. Donc, on a fait mon petit gâteau au chocolat et puis voyant que son papa ne rentrait pas du travail parce que c'était un peu compliqué, je dis à Zoé, écoute, c'est pas grave, on va souffler notre gâteau toutes les deux en amoureuse. Et puis voilà, donc trop fière de souffler les bougies de sa maman. On la couche et à 23h, je me couche. Elle a une douleur intense et indescriptible. Et j'entends comme un ballon qui claque dans mon ventre.
D'accord.
Et là, je sais pas ce que c'est pour le moment. J'ai une bouffée de chaleur énorme. Et donc, j'ai une contraction douloureuse où vraiment la poche a pété. Et après, j'en ai plus eu. Là, mon conjoint va chercher Zoé, appelle la nounou, on dépose Zoé, on y va, c'est le moment. Donc là, il est 23h, on dépose Zoé à 23h45 chez la nounou. Minuit 5, on arrive là-bas, on m'ausculte et on me dit... non, mon conjoint... Moi, j'allais super bien. J'avais des contractions, mais j'allais super bien. Mmh. Et mon conjoint le demande à la sage-femme, mais quand est-ce qu'on voit qu'elle est vraiment au travail? Et là, la dame lui répond... là, vu le sourire de votre conjoint, je peux vous dire qu'elle n'est pas du tout un travail. Mmh. Et là, je commence à me dire, waouh, mais quand même, parce que je les supporte. Mais si là, je ne suis pas en travail, elles sont quand même hyper régulières, toutes les 3-4 minutes. Supportable, mais je sentais qu'elles montaient en intensité. Moi qui ne voulais pas de péridurale, je me dis, ça va être coton quand même. Mmh. Et là, il m'ausculte et en fait, je suis dilatée à 4.
D'accord.
Donc c'est déjà bien, quoi. Elle me dit, si, en fait, je retire ce que j'ai dit, vous êtes déjà au travail. Elle me dit, on va vous installer dans une salle de travail. Et là, je dis, je supporte pas d'être sur le brancard, là. Donc, elle m'enlève la perte parce que j'avais une infection, donc elle m'avait fait une petite dose d'antibiotiques pour booster la chose. Et puis, donc, la perfusion se termine, elle m'enlève la perfusion et elle me dit, faites comme vous voulez, marchez, faites ce que vous voulez. De toute façon, vous dilatez à peu près de 1 cm par heure. Bon, très bien. Donc, nous voilà partis à faire les 100 pas dans la maternité avec mon conjoint. Monter les escaliers, les descendre, voilà. Et puis, en fait, plus ça allait, plus ça montait crescendo. Et là, je me mets à pleurer dans le couloir et je dis à mon conjoint, mais je ne vais pas tenir. Je dis, là, ça fait une heure que je marche, 1 cm par heure, ça veut dire que je suis qu'à 5 cm, j'en suis qu'à la moitié, j'en peux déjà plus. Non, mais ça ne va pas le faire, là, je ne peux plus, quoi. Je dis, tes massages commencent déjà à plus être efficaces, je ne voulais pas retourner voir les sages-femmes. Et mon conjoint me dit, va voir les sages-femmes, qui te dit que tu n'es pas plus dilatée? Il n'attend pas mon aval, il appelle une sage-femme. Et là, la sage-femme m'ausculte, elle me dit, waouh, mais vous êtes déjà à 8, on va commencer à vous installer. Et là, elle est partie. Je dis, je pourrais avoir un ballon. Elle me dit, oui, pas de souci. Donc, elle part chercher un ballon. Et là, je ressonne. Il s'est passé 10 minutes. Et je lui dis, mais j'ai envie de pousser, j'ai envie de pousser, j'ai envie de pousser. Elle me dit, vous étiez à 8. Et là, elle me dit, oui, vous êtes dilatée totalement. on vous emmène en salle de, d'accouchement, mais on n'a pas de salle de prête, il y a trop de mamans qui accouchent pour le moment. Oh. Et là, je me dis, mais j'ai envie de pousser, j'ai envie de pousser. Elle me dit, dans l'idéal, retenez, mais si vous ne pouvez pas retenir, bah allez-y, poussez. Hein.
Dans l'idéal, j'adore.
C'est ça, dans l'idéal, retenez, mais moi, je ne pouvais pas retenir, quoi. Bref, j'arrive quand même dans la salle d'accouchement, et là, plus de contraction, mais plus une. Mais toujours cette envie de pousser. Donc, la sage-femme me dit, vous voulez faire quoi? Attendre que les contractions reviennent ou pousser? Et là, je dis, ah, non, non, je pousse, je n'en peux plus, j'ai envie de pousser, je pousse. Donc, je pousse et... là, il était 3h05 à peu près. Je pousse quelques fois, pas énorme, je ne sais pas combien de fois, mais pas beaucoup. Je peine, je sens que ça bloque, hein. Je ne sais pas pourquoi je sens que ça bloque et je sens que ça fait ventouse en fait. Bref, Léa sort à 3h57. Et là, moment de bonheur, quoi. Ils m'ont laissé en peau à peau avec Léa, avec toute seule, avec mon conjoint. Enfin, c'était du bonheur. Mmh. Et puis, une demi-heure après, ils reviennent quand même en me disant, bon, par contre, il faut qu'on finisse le travail, c'est-à-dire éliminer le placenta, vérifier que tout va bien et vous recoudre. Parce qu'en fait, on a dû faire une épisio parce que ça bloquait. En fait, elle dit, quand vous disiez que ça bloquait, on voyait que votre périnée, il s'écartait pas plus, quoi, il bloquait. Donc, elle a recousu l'épisio. Après, de 5h à 7h du matin, on était seuls, tous les trois, en peau à peau.
C'est une belle victoire.
Le bonheur.
Ouais. Exactement ce que tu voulais à ce moment-là, quoi.
C'est ça, mais complètement. Et au final, eh ben, je les ai énormément remerciés parce qu'ils se rendent pas compte du bien que ça fait, quoi.
À 7h, on m'emmène dans la chambre et en fait, on m'explique qu'il y a énormément de mamans et que je ne serai pas en chambre seule, mais que si ça se passe bien, dans 24 heures, je peux être transférée en maison de périnatalité si je l'accepte. Donc bien sûr, avec mon conjoint, on accepte tout de suite. Et comme Léa va bien et que moi aussi, le lendemain matin, je suis transférée dans une maison de périnatalité. J'en sortirai 2 jours et demi plus tard. Et en fait, la maison de périnatalité, c'est du bonheur. C'est un endroit où j'ai été chouchoutée au calme. C'est vraiment un temps qui m'a permis de me centrer sur moi, sur mon bébé, comme toute maman qui met au monde un nouveau-né à terre. Mais c'est vrai que c'est vraiment ce dont j'avais besoin et je suis super contente de l'avoir fait. Et pour la petite histoire, pour terminer, j'ai tiré à l'aider Léa jusqu'à 3 mois et demi. Et ensuite, j'ai arrêté et j'ai fait un don aussi au lactarium de 14 litres. Hein, parce que voilà, j'avais ce sentiment qu'il fallait que j'essaye de le faire pour remercier à ma façon le lait que Zoé avait reçu au tout début quand moi je pouvais pas l'allaiter.
Donc au final, j'ai eu vraiment 2 accouchements totalement opposés, mais voilà, je ne regrette pas et je me dis que l'accouchement de Zoé a fait que j'ai eu cet accouchement-là pour Léa, quoi.
Ouais, tu penses que tu n'aurais pas fait les mêmes choix? Est-ce que tu commençais à projeter pour Zoé la naissance? Est-ce que tu avais déjà un projet?
Alors oui, je savais que je ne voulais pas de péridurale, mais alors le reste, je ne me projetais pas du tout. Hein.
Oui, c'était encore assez loin, quoi.
Ouais, complètement. Au final... je suis contente de ce que j'ai vécu, même si c'est un peu inédit, mais je pense que tous les accouchements sont inédits. Mais voilà, la prématurité, c'est certain que ça nous a renforcés et dans notre couple et dans le lien parent-enfant, quoi.
Oui, tu sens que tu as fait des choix qui étaient différents, du coup?
Oui, je pense.
Ça a vraiment impacté.
Au niveau de l'éducation, on n'est pas dans de l'éducation positive à fond parce que, bon, moi, vu mon caractère, j'ai un peu de mal encore. Mais on est énormément à l'écoute des filles. Et ça, je ne suis pas sûre que si Zoé ne nous avait pas montré qu'il fallait faire confiance à l'enfant dès tout petit, je ne suis pas sûre qu'on aurait été comme ça.
Ouais, c'est un beau message.
Donc, ouais, belle expérience.
Ouais, incroyable.
Malgré tout.
Oui, moi je sens toute la force, toute la confiance et tout l'amour aussi que dégage votre famille, c'est vraiment touchant.
Après, voilà, après c'est la première fois que je témoigne, parce que je pense que je m'en sens prête maintenant.
Tu aurais un message que tu aimerais faire passer? Bah, du coup, je pense à toutes les femmes qui sont en menace d'accouchement prématuré, à toutes celles qui viennent de le vivre ou qui sont encore dans ce combat-là contre la prématurité.
En fait, il va être simple, mon message, c'est se faire confiance à soi, au ressenti qu'on a, et se faire confiance à l'enfant. Alors, faire confiance à l'enfant, parce que même s'il parle pas, il nous montre des tonnes de messages, comme quoi il est prêt pour ça, comme quoi il veut pas ça, comme quoi ça lui convient pas. Et se faire confiance à soi, parce que on est leur maman, et même si le corps médical nous dit non, c'est vous, elle a rien, votre fille, que vous sentez qu'il y a quelque chose, faites-vous confiance et qu'il y a quelque chose. Peut-être que vous n'êtes pas sur la bonne piste, peut-être que vous ne l'exprimez pas comme il faut, mais il faut se faire confiance, c'est qu'il y a quelque chose.
Oui. L'instinct de maman louve qui reprend vraiment le dessus.
C'est ça. Et même si on ne l'a pas spontanément, moi, Zoé, je ne l'ai pas eu spontanément, l'instinct. Comme je le disais au début, j'étais dans mon rôle d'infirmière et pas de maman. Au final, mon instinct, il est revenu après et il me quitte plus maintenant, quoi. La confiance est énorme, quoi.
Complètement.
Et puis le dialogue, quoi. Parler avec son conjoint, sa famille, pas avoir de tabou sur l'accouchement qu'on a eu, sur les ressentis, c'est énorme aussi, hein. Nous, en tout cas avec mon conjoint, on considère qu'il n'y a pas de tabou. Certes, ça peut choquer, il y a certaines choses qui peuvent choquer et surprendre, mais moins on en parlera et plus ça surprendra.
Oui, complètement. Oui.
Vraiment, dans ce partage en ce moment avec mon conjoint, lui, de son côté, il a répondu à un questionnaire sur le vécu des papas d'enfants préma. Ben voilà, on est vraiment maintenant dans une démarche de partager notre expérience pour donner du courage et de la force aux autres, quoi.
Ah, c'est merveilleux. Et du coup, j'ai une autre question qui me vient. C'est, est-ce que tu aurais des conseils pour les proches des parents qui viennent d'accueillir un grand prématuré, un prématuré? Quels sont les mots qui sont difficiles à entendre? Qu'est-ce qui fait du bien? Parce qu'on ne sait pas
Alors,
toujours.
la chose toute bête qui fait énormément de bien, c'est parler de l'enfant prématuré, même si vous l'avez jamais vu. Parce que moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a fait énormément de mal pour Zoé. Mon conjoint n'a pas vécu pareil que moi, mais moi, ça m'a vraiment blessée. En fait, le temps que ma famille n'ait pas rencontré Zoé, c'est comme si elle était inexistante. En fait, on n'en parlait pas. On en parlait à nos parents, mais pas à nous,
D'accord.
alors qu'on était les parents concernés. Et du coup, c'est tout bête, mais jamais on nous a demandé qu'est-ce que vous auriez besoin qu'on vous fasse.
Oui.
Jamais. Et le truc qui fait super plaisir, c'est quand ma sœur est venue nous voir alors que Zoé était en réanimation, elle m'a emmené un énorme plat de mousse au chocolat maison. Mais c'est des détails. Mais quand vous êtes en galère, que vous mangez les repas de l'hôpital et que vous amène un saladier de mousse au chocolat, je peux vous dire, ça met du baume au cœur.
Oui, bien sûr. Souvent, les doulas, on parle de meal train, donc c'est-à-dire de faire un roulement de personnes proches ou moins proches qui se proposent à préparer des petites
C'est
attentions,
ça,
des repas. Ouais.
c'est ça. J'avais ma soeur, là, l'exemple de la mousse au chocolat. Ma maman, elle nous avait fait des petits plats congelés qu'on pouvait mettre dans le congélateur qui avait à notre disposition en réanimation. Et comme ça, on sortait notre petite gamelle, on la faisait décongeler, on mangeait quelque chose de bon, de fait maison, et sans avoir été en course, quoi que ce soit. C'est des détails, mais c'est hyper important. C'est hyper important, quoi. Et puis, surtout, en parler, en fait, faire comme si l'enfant était vraiment existant et vivant, même si vous l'avez jamais vu, quoi. Parce que c'est blessant, hein, de sentir que pour l'entourage, l'enfant, il n'est pas là, alors que toi, tu te bats tous les jours à ses côtés, quoi.
Bon, je te remercie vraiment beaucoup.
Bah, de rien.
Ouais, je pense que ça va clairement être une petite bouffée d'oxygène aussi pour beaucoup de mamans de pouvoir entendre ça.
Ben, j'espère. En tout cas, moi, je suis contente d'avoir fait mon expérience à Partage parce que voilà, ça fait quelques temps que j'y pensais. Donc, vraiment, je suis contente de l'avoir fait. Je pense que c'était le moment voilà, que j'avais besoin.
Merci. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, mais également à partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Je fais le choix de ne pas proposer de publicité. Libre à vous de participer et de contribuer. Vous avez la possibilité de le faire via le compte Tipeee. Enfanter et devenir. Semaine prochaine pour une nouvelle histoire.